Question d'Islam par Ghalib Bunshir. Aujourd'hui, nous parlons de l'application des sciences humaines dans les études islamologiques. Le champ d'études sur le fait islamique requiert des outils, et ces outils sont à puiser, à utiliser dans les sciences de l'homme et de la société. Certains, parmi les exégètes classiques, disent que ce n'est pas nécessaire, alors que c'est une nécessité vitale. Et pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à accueillir Steven Duarte. Steven Duarte, bonjour.
Bonjour Aleb.
Vous êtes agrégé d'arabe, vous êtes maître de conférence d'islamologie à l'Université Paris 13 Villetaneuse, et tous vos travaux, toutes vos études et votre enseignement portent sur l'implication, l'utilisation, l'application des sciences humaines à l'analyse, à l'étude et à la compréhension du fait islamique. Comment se fait-il que certains, au XXIe siècle, nourrissent encore quelques réticences par rapport à cette utilisation ?
C'est une vraie question. Et à vrai dire, on ne cesse de se la poser, parce que finalement, beaucoup considèrent encore, effectivement, parmi les musulmans pratiquants, qu'ils soient de simples pratiquants ou alors de propres savants dans leur propre domaine, en exégèse ou en sciences dites islamiques, eh bien, considèrent que ces sciences seraient exogènes, donc extérieures à la tradition de l'islam.
Et effectivement, ces sciences-là, c'est-à-dire les sciences humaines.
Tout à fait, d'accord. Oui. Sciences humaines et sociales, ils les considèrent comme en dehors du patrimoine du Torah, donc du patrimoine islamique. Et par cette raison-là, donc selon leur propre raisonnement à l'égard de ces sciences humaines et sociales, ils considèrent qu'ils n'ont pas forcément à les prendre pour argent comptant, si on peut s'exprimer ainsi, et à utiliser leurs concepts pour réinterpréter la tradition de l'islam. Une chose intéressante, c'est que souvent, lorsque l'on se confronte effectivement à des personnes qui bloquent sur l'application des sciences humaines pour la tradition de l'islam, ils vous disent mais si, tout à fait, nous avons intégré ces sciences humaines, nous les connaissons, nous les maîtrisons, mais nous voulons aussi les critiquer. Sauf que avant de les critiquer, il faudrait déjà effectivement pouvoir en tirer des choses pour non pas uniquement donner une sorte de semblant en fait d'utilisation de ces sciences humaines, mais pour véritablement réinterpréter le logiciel de la tradition islamique ancienne. Et ça, c'est très peu en réalité fait.
Alors, il y a deux choses. La première, qu'est-ce qu'on entend par toutes ces sciences humaines et sociales? C'est toute la batterie de disciplines. Psychologie, psychanalyse, sociologie, sémiotique, médiologie, paléographie, codicologie, herméneutique, exégèse moderne, linguistique, je dois en oublier sûrement, historiographie. Tout cela est perçu, donc vous l'avez dit, comme des sciences intruses ou des sciences exogènes, et qu'elles ne sont pas opérantes. Il n'y a pas un impact opératoire dans la compréhension donc du patrimoine religieux islamique. Et si on continue dans cette logique, c'est quoi ? Il y a une sorte de rationalité fermée avec des outils propres à ce patrimoine, et c'est comme ça qu'on veut réinterpréter l'ensemble et la compréhension de ce patrimoine.
Oui, tout à fait. C'est que, effectivement, dans les milieux où on refuse généralement l'introduction des sciences humaines pour réinterpréter donc cette tradition, on considère que de toute façon, en fait, nous avons déjà les outils. Donc, je parle comme si j'étais effectivement représentant de cette tendance. Nous avons de toute façon les outils pour se passer en fait de ces sciences d'Akhila, donc intruses, comme vous le disiez. Et il suffirait simplement donc de revenir à la génération des anciens, des fameux salaf ou salar, donc des pieux prédécesseurs des trois premières générations, pour pouvoir simplement réappliquer ces outils anciens. Mais là où c'est effectivement très problématique et très dommageable, c'est que ces mêmes outils anciens de ces premières générations, paradoxalement, eux-mêmes avaient déjà utilisé les sciences étrangères, entre guillemets, de leur propre temps. Donc il y a une contradiction effectivement insurmontable.
C'est ce que j'allais vous dire. Mais je vais tout de suite à la notion des pieux anciens, les prédécesseurs vertueux. À un moment donné, ses mêmes prédécesseurs vertueux et ses pieux anciens considéraient que leurs anciens, eux, c'était plutôt les Grecs, avec leur sagesse. Puisquand on parlait de Hikmet al-Qudama, c'était la sagesse des anciens, ils ne pensaient pas nécessairement aux compagnons du prophète. Et comme vous l'avez souligné à juste raison, l'outillage intellectuel de leur époque provenait particulièrement, mais pas exclusivement, de la philosophie grecque.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il y avait différents types d'ouverture aussi à ce savoir qui était effectivement grec. Ça dépendait aussi en fait des courants dans lesquels on s'inscrivait. Certains voulaient absolument refouler plus possible cet héritage-là. D'autres le prenaient à bras-le-corps, comme le fameux courant des Mortazilites. Mais effectivement, même pour ceux qui étaient le plus fermés à leur égard, ils s'étaient imprégnés effectivement de ce patrimoine. Et je pense que le meilleur exemple que l'on donne toujours, quand même je donne souvent à mes étudiants en fait à l'université, c'est Ibn Taymiyyah lui-même, donc du XIVe siècle, qui lui n'hésitait pas, lorsque l'on regarde en fait son œuvre, on perçoit toute la logique grecque enfin, qui est à l'œuvre et qu'il manie paradoxalement parfois aussi pour contrer ces mêmes apports extérieurs, mais en utilisant pourtant les outils effectivement de la logique grecque, donc c'est très intéressant.
Oui, le cas le plus emblématique est effectivement Ibn Taymiyyah, mort en 1328... 1326, 1328, qui serait le chaînon manquant, en tout cas la phase par laquelle on est passé depuis le rigorisme d'Ahmed ibn Hanbal jusqu'au wahhabisme. Mais il y a encore un autre cas, c'est Al-Ghazali lui-même, l'Al-Ghazal des Latins. Il réfute les philosophes dans son œuvre, la réfutation des philosophes, mais en utilisant les moyens des philosophes eux-mêmes. Il agit en philosophe.
Mmh, oui.
Et alors, qu'est-ce qu'on utilisait à l'époque comme outil, même si par la suite, étonnamment, on va les considérer comme proprement islamiques? C'était quoi? Que la grammaire? Mais la grammaire elle-même est une discipline étonnamment venue des Perses, qui vont exceller en langue arabe, et la philologie.
Oui, et on pourrait aussi ajouter une chose, à mon avis, très intéressante peut-être, pour comprendre l'évolution en fait et la construction de cette tradition ancienne, qui était en réalité les commentaires juifs, puisqu'ils avaient une longue tradition d'interprétation des textes. Et pour avoir lu en fait des ouvrages de certains collègues qui travaillent, qui sont beaucoup plus savants que moi sur ces questions, qui sont des médiévistes, eh bien effectivement, on se rend compte que les premières générations de musulmans en fait n'ont pas hésité à prendre des outils qui venaient de l'héritage juif sur le commentaire des textes, et notamment sur cette fameuse chaîne des transmetteurs qui donc Sanhed, qui effectivement permettait l'authentification plus tard du hadith. Et on se rend compte qu'ils n'ont pas hésité à prendre dans cette tradition, pourtant là pour le coup d'une autre religion.
Et de nos jours, quels sont encore les autres arguments? C'est simplement l'autosuffisance ou l'autoréférence à un outillage, je l'ai dit tout à l'heure, en rationalité fermée. Comment se fait-il finalement qu'on puisse comprendre qu'une pensée religieuse puisse s'ouvrir si elle-même n'utilise pas les nouvelles avancées, les nouvelles techniques au sens d'un outillage intellectuel pour la faire évoluer?
Oui, bien sûr. Alors là, pour le coup, c'est toute la problématique effectivement actuelle, mais qui n'est pas nouvelle, hein, effectivement, qui dure depuis déjà l'époque moderne, 18e siècle. Et il y a eu en fait au départ une tentative qui était de scinder les apports étrangers. Certains apports étrangers étaient considérés comme bénéfiques et d'autres comme maléfiques, justement. Et d'ailleurs, il suffit simplement effectivement de regarder aujourd'hui, hein, même un État comme l'Arabie Saoudite qui n'a pas hésité à utiliser tous les moyens les plus modernes, même jusqu'à sur le domaine financier, avec les transactions à la nanoseconde. Je pense que ça ne leur pose effectivement pas officiellement beaucoup de problèmes. Toutes les techniques modernes, finalement. En fait, on a scindé entre découvertes techniques et tout ce qui était effectivement sciences humaines et sociales, mais sans se rendre compte que en réalité il y a un lien profond entre les deux. C'est qu'on peut pas scinder de manière aussi mathématique. Et on le sait, vous avez cité tout à l'heure en fait la médiologie. On le sait que le médium, le moyen que l'on utilise, est imprégné lui-même de la philosophie par laquelle on va l'utiliser ou qu'il a conçu elle-même. Donc on peut pas finalement scinder les deux. Et il y a effectivement une aporie là pour le coup.
Vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir cette dichotomie fantastique entre science dite molle et science dite dure, c'est que c'est un état d'esprit, c'est le corpus du savoir qui avance, et la science est cumulative, et donc le franc de la connaissance avance et évolue, et on ne peut pas rester comme ça à la marge, et tout particulièrement dans les données religieuses, ce qui expliquerait, selon vous, que certains commentateurs, certains exégètes sont encore à la notion, caricaturale peut-être, mais que la Terre est encore plate et que la Terre ne tourne pas.
Oui, effectivement, on peut encore entendre ce type de propos, mais dans le même temps aussi, on peut entendre de plus en plus de prédicateurs ou parfois penseurs qui considèrent que ce qu'on appelle très facilement la théorie de l'évolution n'est pas du tout incompatible avec l'islam. On l'entend effectivement quand même de plus en plus aussi de l'autre côté. Donc ça tire quelque part des deux côtés comme une sorte de grand écart, et les croyants malheureusement sont effectivement un peu ballottés ou tiraillés, plutôt pour filer la métaphore, d'un côté et de l'autre, et un peu perdus finalement, perplexes. Donc, effectivement, à mon sens, ce serait, de prendre à bras le corps. Mais là, je prêche pour ma paroisse, qui est de prendre tout simplement à bras le corps, effectivement, les découvertes, parce que nous sommes tous issus de la même contemporanéité. Et d'autant plus si on parle de réformer une culture, une religion ou une longue tradition, quand même un grand patrimoine de 14-15 siècles. Effectivement, je pense que c'est d'autant plus nécessaire de prendre tous les outils qui sont à notre disposition. Et d'éviter effectivement en fait des dichotomies comme ça assez obscures et inopérantes entre savoir technique qui serait neutre et des sciences humaines qui seraient le produit de la réflexion humaine. Et il y a une chose très intéressante que je voudrais ajouter, c'est que très souvent dans les milieux pratiquants musulmans, on croit que contrairement au savoir religieux dit science islamique, le savoir issu donc de la réflexion humaine, des sciences humaines et sociales, lui, on peut pas le considérer de la même manière parce que il n'atteint pas le degré du yaqin, donc de la certitude, parce qu'il suffit simplement de regarder un chercheur en sciences humaines, il n'est lui-même pas sûr de ce qu'il dit, mais il se trompe en réalité parce que c'est justement la qualité en fait des chercheurs en sciences humaines de ne pas être sûr, parce que nous ne visons pas la certitude, vous le savez. Encore mieux que moi, nous visons justement à construire progressivement, en tâtonnant, en tentant en fait des hypothèses, et notre savoir ne se base absolument pas sur la certitude. Il y a une vraie méprise en réalité sur ce que sont les sciences humaines. On ne vise absolument pas la certitude, sinon ce serait opposer un dogmatisme à un autre finalement.
Selon vous, Stephen Duarte, qu'est-ce qui bloque l'appréhension auprès peut-être des fidèles? Elle serait recevable ou compréhensible parce qu'on penserait qu'on va battre en brèche les données révélées, auquel cas on atteindrait la foi, et encore, tout cela est discutable, mais auprès des pseudo-docteurs ou des docteurs de la loi ou les savants en religion, leur réticence et leur appréhension, c'est que d'abord ce n'est pas opérant, et deuxièmement, ce serait une altération de leur connaissance en utilisant ces outils.
Oui, je pense qu'il y a aussi d'autres dimensions qu'il ne faut pas négliger, qui sont très importantes, qui sont d'ordre, je dirais, socio-psychologique, qui est la défense de son propre métier finalement aussi, hein, puisque quelque part c'est saper sa propre autorité que de reconnaître que dans les outils proposés par les autres ou par d'autres corporations de métier, il y aurait des solutions à apporter. C'est-à-dire que c'est effectivement difficile aussi pour des ulamas, pour des savants religieux, de considérer qu'ils n'ont pas l'alpha et l'oméga, et du coup ce serait perdre aussi une partie de leur pouvoir. Ça, il faut jamais l'oublier. Ce facteur compte énormément. Et moi, je dirais une autre dimension qui est très importante, c'est l'aspect symbolique qui est vraiment très importante. C'est que à tort ou à raison, c'est ainsi. Et effectivement, l'histoire pourrait effectivement nous guider là-dedans. L'histoire contemporaine, c'est que les musulmans se sentent pas reconnus sur le plan symbolique. C'est-à-dire mis de côté, très souvent, un peu à la wagon des civilisations, pour reprendre une expression brodélienne. Et par conséquent, ils ont effectivement très souvent aussi ce sentiment qu'on leur demande beaucoup, et par conséquent, ils n'ont pas cette disponibilité d'esprit parfois à considérer que, oui, il ne faut pas hésiter effectivement à prendre en fait de l'extérieur. On sait quand une culture est forte, elle prend facilement de l'extérieur, mais quand elle se replie sur elle-même, elle a tendance à vouloir créer des mythes sur sa propre identité et à la fermer finalement. finalement. Et c'est paradoxal parce que c'est au moment où, je pense, elle en a le plus besoin, la culture d'islam aujourd'hui. Les mondes musulmans en général ont le plus besoin de ces apports, à mon sens, extérieurs. Mais le contexte est aussi effectivement à prendre en compte.
Là, pour l'instant, nous parlons des frileux ou des pusillanimes. On verra tout à l'heure de l'autre côté du spectre, si je puis dire, ceux qui sont beaucoup plus audacieux et qui sont convaincus de la justesse et de la pertinence. Et puis, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser les connaissances actuelles et contemporaines. Donc, continuons à essayer de comprendre leur plaidoirie. Ça relève à la fois de considérations psychologiques d'abord, et puis des considérations de registres épistémologiques différents, selon eux.
Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus, à mon sens, rentrer trop dans la psychologie pour ne pas avoir une analyse trop psychologisante, comme on le dit souvent, parce qu'en fait, c'est tout simplement multifactoriel, de toutes les manières. Mais je pense que c'est un élément, effectivement, à prendre en compte. Ensuite, ce dont on a déjà parlé, sur le fait qu'elles sont considérées comme étrangères, de toute façon, en fait, ces sciences, et n'ont pas opéré dans quelque chose, une matière qui relève du divin aussi, parce qu'on n'a pas parlé, il y a aussi la notion du sacré, du divin, qui rentre en ligne de compte. Certains savoirs, ou certaines méthodes, parfois, seraient qualifiées seraient considérées comme sacrées, comme proches de la divinité, et les autres ne seraient que de simples opinions personnelles, des ara, avec tout l'aspect négatif que peut charrier ce type de conception sur le fait qu'une opinion personnelle n'est pas fondée sur quelque chose de sûr. On revient encore effectivement précédemment à la notion de certitude, mais appliquée au savoir humain, est-ce que véritablement la certitude est une notion pertinente? Je ne le pense pas. Je pense qu'on tâtonne tous, et il faut le reconnaître simplement. Bien sûr, il y a des acquis aussi. La science est cumulative, donc il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a des acquis. Mais peut-être que cet aspect effectivement rebute des esprits qui sont habitués à mettre des actions dans des cases, dans des catégories bien, bien étanches. Effectivement, les sciences humaines ne se présentent absolument pas, et vous le savez mieux que moi, ainsi.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, aujourd'hui tout particulièrement avec Steven Duarte, agrégé d'arabe et maître de conférence à l'Université Paris 13 Ville-Tanneuse, professeur d'islamologie. Nous parlons de l'application et de l'implication, de l'utilisation des sciences humaines dans les études islamologiques. Steven Duarte, le meilleur exemple, me semble-t-il, c'est plutôt la grammaire. On a utilisé la grammaire à travers l'histoire. Aujourd'hui aussi, on est tenu, ne serait-ce que par l'utilisation des sciences du langage, à essayer de comprendre le texte coranique, par exemple. Et ça, on est encore rebuté par l'utilisation des sciences du langage.
Ce qui est pour le coup paradoxal, parce que les sciences du langage ont été poussées à un très haut degré dans la civilisation islamique ancienne. Moi-même, j'avais étudié quand j'étais étudiant auprès de professeurs, d'ailleurs tunisiens, qui étaient vraiment brillants sur cette question et qui montraient que des théories grammaticales anciennes s'accordaient parfois de manière assez intéressante avec des théories récentes en linguistique. Et ce qui montre que les savants musulmans anciens eux-mêmes avaient parfaitement conscience des problématiques du langage. On retrouve ça de toute façon chez des auteurs même pas très très anciens du patrimoine classique, chez Suyuti par exemple, là dans son Itqan, bien sûr on retrouve ces questions du langage.
Les Traînes, c'est son ouvrage qu'on pourrait traduire par « pousser à la perfection », donc les sciences coraniques. Pour peut-être finir avec ce sujet, sommes-nous dans une logique encore, celle de faire l'exégèse du Coran par le Coran, ou interpréter le Coran par le Coran, ou commenter le Coran par des passages coraniques eux-mêmes ? Tafsir al-Qur'an ibil Qur'an.
Oui, alors
oui et non.
Alors voilà, oui, comme de toute façon toujours, voilà. Pour nommer les choses très très facilement chez les traditionnels, bien entendu, c'est une tradition qui est ancienne et qui persiste. Là où c'est peut-être effectivement encore plus intéressant, c'est chez une tendance des réformistes contemporains qu'on appelle très souvent les coranistes, eux-mêmes n'aiment pas trop ce qualificatif, mais qui effectivement tente de réinterpréter la tradition d'islam à l'aune du Coran seul ou pour les plus ouverts à d'autres corpus, pour intégrer aussi une petite partie des hadiths, donc des traditions prophétiques. Et parfois, effectivement, ça peut aller assez loin dans l'interprétation audacieuse.
Oui, dans mon esprit, Steven Duarte, c'était, pour rester dans la réticence vis-à-vis des sciences humaines, la notion d'interpréter le Coran par le Coran, c'est-à-dire rester dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la rationalité fermée, avec un outillage intrinsèque, propre, et qui n'utilise pas d'autres apports exogènes. En revanche, là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce courant de ce qui dit « seul le Coran m'oblige », c'est-à-dire c'est pour s'affranchir de l'inflation des aphorismes prophétiques ou des maximes ou des hadiths qui, de leur point de vue, sont en contradiction d'abord par le Coran, qui a le primat, et comme il y a un élément humain, une construction humaine aussi dans cette collecte des hadiths attribués aux prophètes, il vaut mieux revenir à la source première. Mmh. Dans mon esprit, il y avait deux choses différentes.
Très bien. Oui, tout à fait. Et en fait, ils ne s'affranchissent pas non plus uniquement de cet aspect hadith et autres, mais aussi du coup du magistère des ulémas. Et d'ailleurs, en réalité, à mon avis, c'est beaucoup plus fort d'ailleurs chez eux le fait qu'ils dénient en fait toute autorité aux autorités établies jusqu'à présent, c'est-à-dire les institutions de reproduction du savoir traditionnel représentées par les ulémas. Après, du côté des ce dont vous parliez effectivement du savoir un peu plus traditionnel, un peu plus établi. Le fait de toute façon de rester dans ce que vous appelez, à très juste titre, je trouve, la rationalité fermée, c'est de toute façon un problème malheureusement assez généralisé en fait. C'est que effectivement, comme on disait précédemment, on reste conscient, ou plutôt convaincu, que seuls de toute façon les outils élaborés par les anciens ne peuvent être que pertinents pour interroger les textes. Et d'ailleurs, c'est toute la problématique aujourd'hui, puisqu'on va, sous ce prétexte-là, en fait, interdire à des penseurs contemporains de toucher aux textes divins, ou hadiths, ou au corpus même de la tradition, sous ce prétexte-là, en fait, que de toute façon, on n'a pas à faire intervenir d'autres éléments que ceux que l'on a déjà.
Bien. Et selon vous, Steven Duarte, la sortie de l'ornière ne passerait-elle pas déjà par le fait de sortir de la raison religieuse, aller vers ce qu'on pourrait appeler une raison pure et encore pas la raison raisonnante ?
Alors, en tant que chercheur, je ne peux pas me prononcer sur... ce sont des débats d'acteurs, pour le coup, acteurs au sens, bien sûr, de gens qui font l'action. Ce sont les musulmans eux-mêmes qui devront, voilà, moi là, pour le coup... Ma compétence s'arrête ici. Toutefois, effectivement, en tant que spécialiste du réformisme, je pense qu'effectivement, il est absolument nécessaire que cette réinterrogation soit faite, parce qu'on le sait très bien, toute religion, philosophie ou idée, même de manière plus générale, si elle ne se réinterroge pas avec les outils de sa contemporanéité, malheureusement meurt de toute façon. Donc, moi, ça me paraît de toute façon inéluctable en réalité.
Oui, et donc si je reviens aux coranistes, même si eux-mêmes n'aiment pas trop ce qualificatif, j'ai cru comprendre que par moment ils parlent de cette maxime ou de cette idée « seul le Coran m'oblige », eux-mêmes sont friands de ces sciences humaines, ils les utilisent. Ou parmi eux, y a-t-il ceux qui sont dans le savoir traditionnel? Simplement, ils s'affranchissent plus ou moins des maximes prophétiques.
Alors, ça dépend. C'est pour ça que le réformisme est un champ, à mon avis, à part entière, parce qu'il est très complexe, étant donné que chaque acteur, véritablement, utilise, forge les propres outils qu'il voit pour lui pertinents selon son propre cheminement personnel. Si on prend par exemple des exemples un peu plus concrets, quelqu'un comme Mohamed Shahrour, lui, de par effectivement son expérience, qui est assez personnelle finalement, ne va par exemple très peu utiliser une science comme l'histoire et va se focaliser sur, donc toujours l'analyse du Coran par le Coran selon sa propre conception, mais va évacuer par exemple toute la science historique en essayant de trouver uniquement dans le Coran lui-même et dans la philologie, là pour le coup, dans l'étude de l'histoire des mots, eh bien il va utiliser effectivement ça pour en faire sa propre interprétation. Mais quelqu'un comme le regretté Mohamed Talbi, donc penseur tunisien éminent coraniste, lui qui était lui-même historien de formation, agrégé d'arabe et historien médiéviste donc de la Tunisie arlabide, lui effectivement va utiliser beaucoup plus par exemple l'histoire. Donc là on voit bien par ces deux exemples que en réalité ça dépend véritablement du parcours en fait des personnes eux-mêmes. Et si on termine avec un troisième exemple très prestigieux, c'est Jamel El-Benna, donc lui aussi décédé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, le petit frère de Hassan El-Benna, donc Jamel El-Benna qui lui était penseur réformiste de la tendance coraniste, lui effectivement, lui aussi de par son passé, qui était un passé de syndicaliste très important dans son pays l'Égypte, idem que pour Mohamed Shahrour, il ne va pas utiliser l'histoire pour véritablement interroger. Donc effectivement, on voit par ces trois exemples que ça dépend du parcours de chacun. Et c'est ce qui rend très difficile aussi l'étude du réformisme, notamment en tant qu'enseignant, parce que chaque acteur a ses propres spécificités en réalité.
Oui, à l'évocation de Gamal El-Benna ou Jamal El-Benna, le petit frère de Hassan El-Benna, je ne résiste pas à évoquer ce que j'appellerais une uchronie. C'est l'équivalent de l'utopie dans le temps. Nos amis anglo-saxons auraient parlé d'une histoire parallèle ou une histoire fictive. Si c'était lui qu'on avait écouté davantage, nous n'aurions peut-être pas les déboires que nous connaissions maintenant. C'est dire que la pensée de Gamal El-Benna était audacieuse et quand bien même il serait plutôt dans une approche philologique du texte. Je reviendrai à Shahrour. C'est étonnant, cette focalisation uniquement sur la compréhension du vocabulaire et du champ sémantique du Coran pour dire voilà ce qu'il faudrait utiliser pour là aussi procéder à une réforme de la pensée religieuse islamique. Et c'est parce que vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas donné à l'ensemble des occurrences leur véritable signification.
Oui, et effectivement, ça pose, à mon sens, là pour le coup, un vrai problème du regard en fait de l'observateur, c'est que en utilisant uniquement ce prisme-là, quelque part, parfois, on revient et on le retrouve chez les coranistes. Là pour le coup, c'est une particularité qui transcende cette tendance, qui est parfois, on a ce sentiment quand on les lit, d'une forme de normativité qui est d'ailleurs tout aussi forte qu'on peut la trouver des fois dans certains mouvements de l'islam politisé, c'est-à-dire à vouloir effectivement redonner une nouvelle normativité, mais avec ce sentiment que nous avons découvert la vérité, et avec du coup cette même conception unitariste quelque part en fait de la vérité qui s'imposerait aux musulmans, qui sauraient discerner ce que l'on trouve dans le Coran. Et ça pose effectivement, à mon sens, en tant qu'observateur, quelque chose de problématique qui est la réimposition. Parfois, bien sûr, ce sont des penseurs qui ouvrent des champs, bien entendu. Mais quand on va dans la profondeur de leur œuvre, on se rend compte que parfois, ils ferment aussi des portes. Ce qui est très paradoxal, en réalité. Mais pour le coup, on le retrouve sensiblement chez ces penseurs de la tendance coraniste, beaucoup moins dans les autres tendances du réformisme. Et ça pose question, parce que quelque part, on a l'impression qu'ils vont bien sûr au-delà du patrimoine ancien, ils le réinterrogent, ils proposent de nouvelles voies, vous le disiez avec Jamal El-Benna, très audacieuses. Ça, c'est évident, on peut pas leur renier ça, ils ont un grand courage, surtout du milieu duquel ils partent, donc au sein du monde musulman. Mais en même temps, parfois, effectivement, ils ont cette tendance à réintroduire la notion de vérité de manière absolue.
Oui, c'est vrai, et certains d'entre eux, pour en prendre que trois exemples, je ne pensais pas que j'allais m'y appesantir, pris ces exemples-là particulièrement dans la pensée de Shahrour, le contemporain. Le premier, c'est les questions du voile n'ont jamais parlé de la chevelure qu'il faut cacher. On a beau triturer le texte coranique, on ne trouve pas ça. Donc si seul le Coran oblige, donc il n'y a pas à prendre en considération une quelconque façon de couvrir les cheveux. Deuxième exemple, il n'a jamais été question, si on reste dans la norme religieuse ou la norme juridique inférée par le Coran ou du Coran, qu'il ne fallait pas amputer la main du voleur, puis il fallait simplement lui faire une petite entaille, parce que le terme ne dit pas abtirou, mais il dit akteru. Et le troisième cas, parce que ce sont des questions épineuses qui sont au cœur des polémiques entre musulmans et non-musulmans, il n'a jamais été question de battre sa femme, puisque le même terme dit faire grève, donc c'est plutôt s'abstenir de les approcher. Donc voilà, est-ce que ça relève plus de ratiocination et des élucubrations, ou c'est une manière de sauver le texte par la philologie, ou c'est effectivement le vrai sens qu'on a exhumé et qui, pendant des siècles, n'a pas été perçu?
C'est une très bonne question, effectivement, à leur poser même directement, et à les faire dialoguer en réalité entre eux. Ça, c'est très intéressant quand on le fait. Parce que souvent, effectivement, vous avez raison, c'est ce que l'on peut remarquer. Souvent, c'est ce que je disais quand je parlais quelque part parfois de réintroduction d'une forme de dogmatisme, c'est que on trouve effectivement cela. Moi, je l'ai vraiment senti quand j'ai lu l'œuvre de Mohamed Shahrour sur le fait que le vrai sens du terme a été occulté, donc le signifie a été occulté, et quelque part, moi, je vais apporter, effectivement, je vais revenir à cette essence ancienne. Mais on sait très bien que dans le langage, la notion d'essence, en fait, est très fluctuante en réalité, et elle est aussi, encore une fois, sujette à l'histoire. Donc, effectivement, ça pose problème. Mais encore une fois, effectivement, c'est pas traité de la même manière, enfin, par tous. Et par exemple, si je pense sur cette question du voile, Jamal Benna, puisqu'il il y a eu beaucoup de polémiques hein, sur l'œuvre de Jamal Benna en Égypte, en fait, notamment. Et lui, il avait énormément réutilisé la notion de hurriya, donc de liberté. Et sur le fait qu'il était capable aussi, bien entendu, de prendre des éléments en dehors du Coran pour parler aussi sur des sujets aussi contemporains comme le port du foulard, du voile, etc. Et il considérait que pour lui, c'était aussi au choix, en fait, de la musulmane pratiquante elle-même ou pas. Il était contre toute forme, de toute façon, d'imposition, ça c'est sûr. Mais il arrivait aussi, voilà, à ne pas se restreindre uniquement à l'étude du Coran par le Coran. Il intégrait aussi, en fait, des éléments extérieurs. C'est pour ça qu'il est justement réformiste. Et la notion de liberté est chez lui très importante, comme elle était très importante chez Mohamed Talbi aussi, qui avait une position assez similaire sur la question. Il était lui-même contre le port du voile, mais une jeune femme ou une femme qui voulait en fait le porter, il considérait que c'était sa liberté. D'ailleurs, il s'était positionné sur le débat qui avait lieu en France dans les années 2004-2005, et sur ça, il avait été très 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 clair. Donc voilà, ils sont bien entendu aussi tout à fait aptes ils le font très bien, à prendre des éléments en dehors aussi, bien entendu, du Coran.
Je dois à la vérité, dussé-je me départir un peu de mon rôle de simple médiateur, que j'ai entendu de mes propres oreilles Kamal al-Banna à l'Assemblée nationale, c'était en mai 2004, donc quelque temps avant sa mort, dire, c'est pour aller abonder dans votre sens, et qu'il ne se restreignait pas uniquement au Coran et à l'explication du Coran par le Coran, mais en prenant des éléments extérieurs. Sur ce sujet-là, il disait que les hommes et les femmes, concomitamment, simultanément, également comme un adverbe circonstanciel de temps, faisaient leurs ablutions dans un même bassin. Et quand on sait que les ablutions, c'est jusqu'au coude, c'est sur les cheveux, les pieds, etc., il n'y avait pas cette affaire de voile qui pût tenir un moment. Donc pour lui, c'était des éléments qui allaient dans le sens de la non-imposition de cette affaire du voile. On l'a pris simplement comme exemple. Maintenant, si vous voulez bien, Steven Duarte, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, quelques figures emblématiques de ceux qui non seulement utilisent ces sciences humaines comme un outil nécessaire pour une pensée subversive, pourquoi pas, pour parler un peu comme Mohamed Harkoun, ou même pour comprendre le texte et travailler ce patrimoine islamique?
Oui, bien entendu, il y a toute une tendance que j'ai caractérisée parmi, donc, parce que le réformisme est un courant, donc il y a différentes tendances, et il y a une tendance que j'ai qualifiée de libérale, qui là, véritablement s'inscrit... Alors bon, libéral est un terme piège en réalité, parce qu'il veut dire beaucoup de choses, et parfois pas énormément. Libéral, je l'ai utilisé dans le par analogie avec le judaïsme libéral, en fait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de rapprochements à faire entre la tradition du judaïsme libéral, ou réformé, selon qu'on est aux États-Unis ou en France, et la tradition donc du réformisme, et des penseurs plus précisément, qui dans le réformisme, effectivement, n'hésite pas à prendre les fameux outils enfin, dont on parlait précédemment des sciences humaines et sociales. Il y a effectivement une jeune génération qui arrive et qui, à mon avis, va faire beaucoup parler d'elle, puisque vous me demandez donc quelques exemples concrets, je vais vous en donner. Par exemple, je pense à Hicham Abdeljawed, qui est en train actuellement de préparer sa thèse de doctorat en Belgique, à Bruxelles, et qui clairement, pour moi, à mes yeux, fait partie de cette tendance, et qui là utilise pleinement, tout en étant lui-même, il affirme lui-même, tout en étant croyant, enfin musulman pratiquant, et qui n'hésite pas effectivement à recourir aux outils qui sont à notre disposition. Je pense aussi à une, donc décidément, Belgique aussi, à Michael Privot, qui présente exactement aussi cette même caractéristique, et qui fait un travail très intéressant sur cette question, et en plus, qui est un collègue finalement, parce que il est issu des milieux de l'islamologie savante, enfin lui aussi, c'est sa formation de base, et maintenant s'est orienté de manière ouverte à l'étude et à la réinterprétation de ce patrimoine à l'aune donc de ces sciences humaines. Et là, pour le coup, il décrit lui-même son parcours dans son ouvrage, qui est très intéressant, un ouvrage biographique, où il montre comment il a progressé en partant des frères musulmans, parce qu'il fréquentait les cercles donc issus des milieux frères musulmans, et en même temps comment il raconte sa propre progression, au départ en suivant quelqu'un comme, par exemple, il le cite, hein, donc je me permets de le faire, Tarek Oubrou. Donc au départ il est proche, puis ensuite il se rend compte que sur le plan des sciences humaines on pourrait encore aller plus loin dans l'étude des textes sacrés, et finalement il découvre, par le truchement de Rachid Benzine, il découvre l'œuvre de Jacqueline Chabbi, donc collègue spécialiste de l'époque médiévale qui travaille sur l'anthropologie coranique, et donc il montre son propre parcours dans cette découverte comme ça des sciences humaines, et je pense que eux deux sont une très belle illustration de cette tendance là. On pourrait, après on va croire je suis pro Belgique spécifiquement. En France, je pense que l'exemple qu'on pourrait tout à fait citer, c'est le beau parcours aussi d'Homero Marangio Peria, qui lui aussi est parti à la base du milieu des frères musulmans, mais pour s'en détacher ensuite complètement et partir sur maintenant quelque chose qui relève du réformisme libéral, et il le fait effectivement avec grande pédagogie et beaucoup d'intelligence.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'application des sciences humaines à l'étude du champ islamique, du fait islamique, de la chose islamique elle-même, avec Steven Duarte, agrégé d'arabe, maître de conférence en islamologie à l'université Paris 13 Villetaneuse. Juste avant cette pause, Steven Duarte, vous avez évoqué, à supposer par extraordinaire qu'il me soit permis de cautionner, ne pas cautionner comme ça l'évolution intellectuelle des personnes, et notamment des islamologues, les deux exemples d'Homero Marangio Peria et celui de Michael Privot sont des exemples emblématiques, parce que pour les observateurs qui suivent leurs travaux, ils sont pour moi immunisés contre la tentation ou les tendances salafistes ou fondamentalistes parce qu'ils en émanent et en ayant compris l'impasse dans laquelle ils se trouvaient. Pensez-vous ainsi ?
Tout à fait. Ça les rend d'autant plus pertinents et pour le coup dangereux, effectivement, pour des milieux qu'on peut qualifier de fondamentalistes parce que connaissant parfaitement et en fait maîtrisant le langage, puisqu'ils en sont eux-mêmes issus, qu'on a bien entendu. Et c'est d'autant plus intéressant. Là où en plus il y a une chose qui serait peut-être intéressant effectivement de mentionner à cette étape, c'est que dans les milieux justement aujourd'hui, par exemple socialisés, qui socialisent autour des frères musulmans, et également aussi dans les milieux maintenant proches du salafisme avec toutes ces tendances en fait différentes, ce qui est paradoxal, c'est que souvent dans ces milieux-là, on peut se revendiquer aussi du réformisme. En utilisant le vocable islah ou islahiyya. Et là, effectivement, pour le coup, quand on maîtrise pas la question, on ne comprend plus rien finalement, parce qu'on se dit, si on se réfère effectivement aux frères musulmans ou à leurs savants, et en même temps se qualifier réformiste, et on voit une même personne qui, à côté, va utiliser les sciences humaines pour interroger le Coran, même parfois avec la méthode historico-critique ou autre, et là on ne comprend plus rien finalement. Et ça c'est très important parce que ce qui s'est produit finalement, en fait, dans l'histoire récente, c'est que le mot réformisme a été véritablement utilisé comme une manière de se légitimer, en fait, très souvent par les acteurs. Et ça rend notre travail, effectivement, pour le coup, très difficile. Parce que si, effectivement, les acteurs qui relèvent, par exemple, des frères musulmans ou du salafisme revendiquent eux-mêmes l'héritage, en fait, du réformisme, ils considèrent qu'ils n'ont justement pas à faire l'effort d'aller vers les sciences humaines, puisque pour eux, c'est déjà fait, en réalité. Et du coup, ça rend le travail de... pour achever de répondre à votre question, le travail de quelqu'un comme Homero ou alors Michael Privot, effectivement, ça rend le travail d'autant plus difficile en réalité.
Oui, il y a aussi effectivement toute cette confusion dans le mouvement réformiste, notamment à la fin du 19e siècle ou à la charnière 19e-20e siècle, qui, tout en parlant de réformisme, en est revenu, peut-être à ce moment-là, pour faire crédit que c'était plutôt une idée de revenir à la pureté originelle de l'éclosion de l'islam au niveau de, à la fois des idées, de l'exégèse, à ce moment-là, on a magnifié le salafisme. Et comment alors, selon vous, Steven Duarte, les choses finalement ont été pétrifiées ou sclérosées ou fossilisées?
Alors là, c'est un gros bloc. C'est quelque chose de massif, ce dont vous parlez là, et qui a été au cœur de tous les problèmes. C'est qu'on se rend compte finalement, pour résumer, que c'est effectivement à partir de la fin du 19e, début du 20e, qu'il y a un bouleversement finalement dans le patrimoine de l'islam. C'est qu'on va commencer par la faveur de la naissance de l'Arabie Saoudite, donc années 30, mais qui avait déjà commencé au préalable à faire un travail de prédication, et des frères musulmans qui naissent en 1928. Donc fin du 19e, ça commence, et début du 20e, on voit qu'il y a un bouleversement dans les œuvres obligées par lesquelles tout savant musulman doit passer. Et ça a été très très bien démontré sur le fait que quelqu'un comme Marabdou, par exemple, donc qui était le grand moufti d'Égypte, grand penseur réformiste mort en 1905, lui par exemple, dans sa formation en fait intellectuelle, on s'est rendu compte que Ibn Taymiyyah n'avait quasiment pas de place en réalité. Bien entendu, il le connaissait, mais ce n'était pas un auteur, un savant ancien duquel il s'est véritablement nourri. Il s'est nourri avec d'autres contemporains d'Ibn Taymiyyah, qui étaient d'ailleurs souvent soufis, savants et soufis. À l'époque, ce n'était pas une contradiction. Et on se rend compte que progressivement, une personnalité comme Ibn Taymiyyah a été ajoutée dans le curriculum officiel. Et l'exemple le plus fameux, à mon sens, que l'on ait, c'est incarné par le parcours de Rachid Rida.
Qui est le disciple de Mohamed Abdou.
Qui est le disciple de Abdou. Et il y a des études très intéressantes qui montrent comment Rida lui-même a progressivement été, donc, il était proche de, bien sûr, de son maître Abdou, donc dans une attitude, dans une démarche réformiste. Et au fur et à mesure de sa vie, avec le succès grandissant, donc, du jeune État saoudien, il va effectivement prendre fait et cause directement et devenir même une courroie de transmission du wahhabisme, ou salafisme. Ne rentrons pas trop dans la terminologie, ça nous amènerait à, à des considérations plus longues. Donc, il va devenir une courroie de transmission, et ce qu'il va se produire effectivement de dommageable, c'est qu'il va censurer une partie de l'œuvre de son maître en réalité. Et il va effacer certains propos que son propre maître avait déclarés, par exemple sur la création du Coran, qui sont des débats quand même très lourds dans la culture islamique ancienne. Et donc, il va progressivement fermer les portes qu'avait ouvertes Abdou. Et en réalité, eh bien, ça va se poursuivre effectivement. La création des frères musulmans va entériner ceci. Les frères musulmans eux-mêmes, qui étaient concurrents du salafisme naissant, vont eux aussi finalement perdre la bataille des idées, parce qu'ils vont récupérer cette matrice idéologique en réalité du salafisme. Donc ils vont reprendre comme savant de référence Ibn Taymiyyah, et jusqu'à nos jours en réalité. Et dans cette reprise-là, dans cette nouvelle institution donc de ce curriculum nouveau, eh bien on va intégrer le fait que c'est le discours officiel encore des frères musulmans, que le réformisme, eh bien eux, ils l'ont accompli. Sauf que en faisant ça, ils nient l'histoire, ils masquent une partie de l'histoire, qui est que une tradition réformiste qui effectivement passe par Abdou, en fait a toujours perduré depuis le début du 19e siècle, elle a existé, elle existe encore, et le succès du salafisme et des frères musulmans l'ont complètement écrasé en réalité. Voilà ce qui s'est produit.
Oui. Alors, à juste raison, et vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il vaut mieux se garder des approches psychologisantes, mais d'aucuns disent que le point singulier ou l'inflexion ou le détour de Rachid Reda est dû davantage de ce qu'il a perçu comme excès dans le laïcisme, avec l'idée que le suffixe « isme » étouffe la racine chez Mustafa Kemal Atatürk, et donc il a opté, peut-être dans un premier temps, faute de mieux, vers le... Vous avez raison, pour ne pas entrer dans les considérations sémantiques, j'utiliserai par défaut le terme « wahhabou-salafisme », et donc il a opté plutôt pour ça, et davantage il a voulu le cautionner par une approche intellectuelle.
Bien sûr, en fait la Turquie kémaliste a joué comme un contre-modèle, et très certainement on peut tout à fait mettre l'hypothèse que c'est ce qui l'a poussé à choisir plutôt effectivement, et surtout qu'à l'époque, l'indépendance du monde musulman n'était pas du tout quelque chose d'acquis, et donc l'État saoudien faisait partie des quelques États indépendants officiellement, et donc le recours à l'Arabie saoudite pour lui était certainement le modèle le plus attirant, oui tout à fait.
Sans vouloir ni refaire l'histoire, ni faire encore une autre uchronie, s'il avait, par impossible maintenant, opté vers l'approche kémaliste, mais en l'assouplissant, ou en la comprenant, en la réexpliquant, nous ne serions peut-être pas dans ces considérations oiseuses, captieuses et malheureusement aliénantes pour un bon nombre de musulmans de par le monde.
C'est possible. Difficile de refaire l'histoire avec des si.
Oui, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure, où je parlais d'histoire parallèle ou d'histoire alternative. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Steven Duarte, pour finir l'émission. Quant à la pertinence de l'utilisation de ces sciences humaines et sociales, quel est l'avenir? Vous pensez que finalement on va s'en rendre compte, parce que rester uniquement dans l'utilisation de l'approche traditionnelle, qui, la pourrie que vous avez donnée, elle-même utilisait les connaissances de l'époque, simplement s'est arrêtée, ou ça, il y aura deux approches parallèles, l'une académique, scientifique, avec une lecture confessante et une lecture anthropologique du fait religieux, ou comment voyez-vous l'avenir?
En fait, j'oscille entre pessimisme, pragmatisme et optimisme. C'est que, en fait, c'est très difficile en général pour une culture de se remettre en question si le contexte n'est pas un minimum apaisé. J'ai essayé un petit peu d'en parler tout à l'heure. Je pense que là, effectivement, c'est le meilleur moment pour terminer. C'est que il est très difficile pour une culture religieuse, par exemple, aussi importante que celle de l'islam, de puiser allègrement et de manière, assez libérée dans un patrimoine qu'elle considère exogène, si elle-même se sent menacée en réalité. Ça, c'est évident. D'ailleurs, je pose cette question dans un écrit. sur la prospective, en fait, à l'écart en réalité du réformisme. Et je pose cette question en me disant, en faisant une comparaison justement avec le judaïsme libéral. Le judaïsme libéral est né dans une période où les idées des Lumières étaient très importantes, étaient en vogue en fait en Allemagne, début du 19e jusqu'au tout au long du 19e, jusqu'au début du 20e, puis après ça a effectivement été bouleversé. Mais il a pu naître dans un milieu qui était justement favorable aux idées nouvelles. Et je pose cette question effectivement, est-ce que aujourd'hui nous sommes dans la même dans le même contexte sur le plan des idées, où effectivement malheureusement les idées des Lumières elles sont plutôt aujourd'hui battues en brèche et où certains hommes se replient par l'expression des anti-Lumières qui aujourd'hui règnent, et on peut se poser la question si règnent les anti-Lumières, est-ce que cela favorisait une réforme de l'islam? Je ne crois pas. Mais en même temps je reste optimiste sur un autre plan, parce qu'on le voit en réalité que finalement, l'islam tel qu'il est enseigné aujourd'hui dans les milieux traditionnels pratiquants, qu'ils soient issus des frères musulmans, du salafisme, ou même des institutions véritablement traditionnelles comme Al-Azhar en Égypte, ou Qaraouine,
à Fès,
qu'on dirait au Maroc, etc. On voit que cet enseignement-là, il se craquelle en réalité. Et il prend l'eau en réalité de partout parce que les musulmans, tout simplement, les musulmans pratiquants eux-mêmes, se posent des questions. Et de plus en plus, les réponses qu'on leur donne, ils se rendent compte qu'il y a une pluralité de réponses possibles. Et je le vois d'ailleurs très concrètement par mon enseignement à l'université de Paris 13. Je vois très bien, c'est que lorsqu'on étudie par exemple les fondations de l'islam, la fameuse grande discorde, avec le fameux livre du penseur tunisien, l'historien tunisien Hicham Jaït, on se rend compte que, bah oui, ils sont tout à fait avides et parfaitement, bien sûr, aptes à comprendre cette histoire complexe sur le fait que des compagnons se sont entretués, mais que, à l'époque, les compagnons eux-mêmes considéraient que la foi était quelque chose de toute façon qui était assez paré, mais les conflits politiques étaient tout à fait ouverts quant aux divergences. Et donc, aujourd'hui, les musulmans pratiquants, même très pratiquants, considèrent que cette histoire-là, c'est la leur, et ils sont tout à fait capable en fait de la comprendre, mais ils se rendent compte que dans les milieux traditionnels ou ce qu'ils ont eux-mêmes appris, cette histoire-là en fait parfois on leur cache ou on leur donne des explications simplistes, mais ça leur suffit pas en réalité. Donc ça viendra de même en réalité quand ils verront que les explications qu'on leur donne sont de part trop simplistes en réalité. Donc je pense que je suis optimiste sur l'avenir, c'est que j'espère du moins une ou deux générations, je pense que le réformisme sera constituera des briques sur lesquelles pourront construire en fait les musulmans qui vont arriver et qui devront reconstruire quelque chose en réalité.
Merci infiniment. Restons sur cette approche optimiste, étayée et argumentée. C'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons reçu Steven Duarte, agrégé d'arabe et maître de conférence d'islamologie à l'université Paris 13 Ville-Tanneuse. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pierre Henry. La réalisation a été assumée par l'ami Rafik Zénine.